Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Voilà, une émission Vivante Église ce matin un petit peu particulière sur le silence. Alors on a décidé de faire 100 lancements pour rentrer plus profondément dans le silence et peut-être pour marquer une différence. Nous sommes ce matin donc avec Michel Naudet-Langlois, qui est donc ancien professeur de philosophie en Cagne au lycée Fermat à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Cette émission a été motivée entre autres par un livre du cardinal Sarah, livre d'entretien avec Nicolas Dia, La force du silence contre la dictature du bruit, paru aux éditions Fayard. Ça fait un certain temps maintenant qu'il est paru. Il est paru en septembre 2016. Mais comme je le dis de temps en temps, c'est le luxe un peu de cette émission de pouvoir prendre un petit peu de recul. En quelques mots, le cardinal Sarah donc est une des grandes figures de l'Église d'aujourd'hui. Voilà, cardinal à Rome, cardinal africain, et Nicolas Dia est un spécialiste reconnu de l'Église, écrivain, auteur entre autres d'un ouvrage de référence sur le pontificat de Benoît XVI. Et à la fin de ce livre d'entretien, il y a aussi une partie avec Don Dismas de Lassus, je ne sais pas si je prononce correctement, qui est prieur au monastère de la Grande Chartreuse et ministre général de l'ordre des Chartreux, fondé par Saint Bruno. On en parlera un petit peu au long de cette émission. Quand on est journaliste, c'est vrai qu'on rêve toujours de faire une émission sur le silence. Je vous le disais en préparant l'émission. Et ça devient possible avec cet ouvrage du cardinal Sarah, qui est vraiment un très très beau livre. Ce livre commence dans son introduction, par évoquer une rencontre. Alors j'en parle en quelques mots et je vous laisserai développer. Le cardinal Sarah est, semble-t-il, ami d'une abbaye, Notre-Dame de la Grâce, qui est pas très loin d'ici, dans un diocèse voisin. Donc abbaye, on va dire, de plutôt dit traditionnel. Sans aucune connotation péjorative, mais avec une liturgie, en tout cas une liturgie latine. Et le cardinal Sarah, qui se rend, semble-t-il, assez régulièrement en ce lieu, et qui, en avril 2015, s'est rendu là-bas, et à cette occasion, comme en d'autres, est allé visiter son ami le frère Vincent. Dites-nous, Michel Naudet-Langlois, qui est ce frère Vincent, qui, semble-t-il, a motivé l'écriture de cet ouvrage ?
Je ne le connais qu'à travers les lignes que le livre lui consacre. Donc tout ce que je sais de lui, c'est que ce fut un grand malade dans la force de l'âge et que le cardinal Sarah l'a connu apparemment au moment de cette maladie, l'a accompagné dans ses dernières phases de vie et il en parle parce que précisément ces phases ont été celles au cours desquelles la parole n'avait plus cours, la parole du malade qui ne pouvait plus parler, et la parole du cardinal ou des autres personnes qui visitaient le malade, qui littéralement n'avait plus rien à dire. Bon, ces fins de vie sont des moments où précisément le silence s'impose comme seule manière de signifier quelque chose à l'endroit de celui qui est dans la maladie et éventuellement dans la souffrance.
Donc, il est dit en introduction à propos de ce frère Vincent, brisé par une sclérose en plaques, le jeune religieux savait qu'il arrivait au terme de son existence. Dans la force de l'âge, il se retrouvait paralysé, cloué au lit de l'infirmerie, condamné à des protocoles médicaux sans pitié. Et donc, ils se sont vus à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'est très, très beau et très bouleversant. Ils ont eu un certain nombre de colloques, mais de colloques en silence, en tout cas, puisque le frère Vincent ne répondait pas. Et Nicolas Dia, qui semble-t-il donc était présent avec lui lors de cette rencontre, au moins en avril 2015, lui aurait suggéré, ou en tout cas en quittant l'abbaye Notre-Dame de la Grâce, il raconte même un moment, c'est très beau, qu'ils sont allés avec le père Emmanuel, le père abbé de l'abbaye, se promener un petit peu dans le jardin, après avoir visité ce frère, aussi en silence, pour laisser un peu descendre et reposer des moments aussi mystérieux, et donc il l'incitait à écrire un livre sur le silence. Alors, moi j'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez, qu'une des grandes forces de ce livre du cardinal Sarah, c'est qu'il parle assez vrai. Voilà, il y a des paroles assez tranchantes, tranchantes parfois comme l'épée. Entre autres, il parle à plusieurs reprises de l'enfer du bruit de notre société. Il dit cette chose, entre autres, le discrédit porté sur le silence par la société moderne est le symptôme d'une maladie grave et inquiétante. Qu'est-ce que vous avez retenu sur cette partie à la serpe sur le monde contemporain ?
J'y ai entendu un écho de mon expérience d'homme agressé par le bruit, mon expérience de musicien aussi, et Dieu sait si dans la musique, le silence a son lieu aussi. Et quand je parle de l'agression par le bruit, bien sûr il y a l'agression par ce que le cardinal appelle à la suite des spirituels le bruit extérieur, mais il y a aussi toutes les formes de stimulation des bruits intérieurs, c'est-à-dire des passions. Et finalement, c'est peut-être plus facile de se protéger du bruit extérieur que de faire le silence en soi.
Alors juste sur la première étape, parce que là vous allez vite en besogne, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que rare en fait à entendre le cardinal Sarah, et je ne sais pas vous par exemple, vous qui avez été enseignant pendant des années, si vous avez été amené parfois à parler du silence avec vos élèves, rares sont les gens qui cherchent le silence d'une certaine manière. Il dit entre autres, les villes sont devenues des fournaises bruyantes. Un peu plus loin, sans bruit, l'homme est fiévreux, fébrile, perdu. Est-ce que vos élèves étaient comme ça ?
Non, mes élèves en général se taisaient. Et j'enseignais dans une classe où il n'était pas très nécessaire de demander aux élèves de faire silence, comme on y est amené, avec des publics plus jeunes. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a des bruits extérieurs qui sont tout à fait inévitables, qui sont liés à la vie de travail, au fait que les instruments de travail sont éventuellement bruyants, ou les instruments de transport, pour l'instant, ne fonctionnent pas sans bruit. Mais ce qui caractérise peut-être notre société contemporaine, et c'est là-dessus que le cardinal insiste, c'est une sorte de culture du bruit. Pardonnez-moi la remarque, mais je crois que lorsque nous allons nous interrompre, immédiatement, une musique sera diffusée sur les ondes.
Il n'y a jamais de silence à la radio, il faut que vous sachiez. Voilà. Donc, quand un invité tarde à répondre pendant 5-10 secondes comme ça, alors là dans l'émission ça va, c'est l'angoisse pour un journaliste, vous voyez. Mais parce qu'on sait aussi que de l'autre côté, les auditeurs ne comprendraient pas un silence à l'antenne.
Oui, mais peut-être qu'il y a là quelque chose qui demande réflexion.
Rassurez-vous, Monseigneur Le Gall nous a incité à la messe de rentrée, voilà, on raconte toute la vie de la radio, à réfléchir justement à la place du silence sur Radio Présence. Donc vous voyez, vous êtes...
Donc je suis à l'ordre du jour.
Vous êtes à l'ordre du jour. Voilà, sur l'enfer du bruit, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. Je cite juste un autre passage. L'agitation devient un tranquillisant, un sédatif, une pompe à morphine, une forme de rêve, d'onirisme sans consistance. Mais ce bruit est une médiation dangereuse et illusoire, un mensonge diabolique, dit-il. Et quand on est cardinal de la Sainte Église de Dieu, quand on parle de mensonge diabolique, on sait de quoi on parle. C'est pas juste une expression qui permet à l'homme de ne pas se confronter à son vide intérieur, le réveil ne peut être que brutal. Alors derrière, et tout au long de ce livre, en fait, le cardinal Sarah aussi, avec la même force, à propos de cette critique d'un monde bruyant, invite comme à une forme d'acte de résistance. Il dit entre autres la chose suivante, pour introduire en fait à cet acte de résistance, il y a une grande question, comment l'homme peut-il être réellement à l'image de Dieu ? Il doit entrer dans le silence. Est-ce que ça vous a frappé aussi, cette forme d'invitation à la résistance du cardinal Sarah ?
Oui, bien sûr, parce que, je vous l'ai dit, le bruit sous ces deux formes, extérieure et intérieure, m'est pénible. Et j'avoue ne pas y trouver le dérivatif que peut-être beaucoup y trouvent, en tout cas si l'on en croit le cardinal. Mais de même qu'il y a une culture du bruit, à laquelle s'est vouée notre société, il doit y avoir, dit le cardinal, une culture du silence, c'est-à-dire l'acquisition de ce que les philosophes, les scolastiques appelaient un habitus. Bon, nous disons tout simplement une habitude, hein, mais ça signifie une disposition devenue habituelle à nous mettre en silence. Le silence est quelque chose qu'il faut en quelque sorte faire, d'où cette vieille expression très parlante, faire silence. Le silence, manifestement, est quelque chose qui est avant tout actif et qui l'est d'autant plus qu'il est constamment menacé par des bruits auxquels pour certains, nous ne pouvons rien, mais des bruits auxquels, finalement, nous nous laissons aller quotidiennement, parce que nous ne posons pas d'écran par rapport à ces bruits, d'écran extérieur et aussi d'écran intérieur.
Je cite un autre passage. Il parle du signe de Jonas. Non, pardon. Il cite Thomas Merton qui, dans le signe de Jonas, dit « Sa nécessité est particulièrement évidente en ce monde, en parlant du silence, où il y a tant de bruit, de paroles ineptes. Le silence est nécessaire pour protester et réparer les destructions et dégâts provoqués par le péché de bruit. » Donc, le cardinal invite, d'une certaine manière, invite à rentrer dans la prière. Alors, parce qu'on peut se dire, les auditeurs peuvent se dire, très bien, moi aussi j'ai envie de poser cet acte de résistance. Comment fait-on ? Alors, il y a d'autres émissions, entre autres cette émission-là qu'on fait sur l'école de la prière, qui peut aider à rentrer dans cette démarche. Mais le cardinal Sarah dit la chose suivante, « Aucun prophète n'a jamais rencontré Dieu sans se retirer dans la solitude et le silence. » Qu'est-ce que vous diriez de ça, peut-être en mettant en lumière certains passages de l'Écriture ?
Oui, il résume un grand nombre de passages de l'Écriture. Bon, je pense notamment au prophète Élie, mais on peut penser aussi, et il en parle, des retraites que Jésus lui-même a faites au désert, tout seul, donc sans interlocuteur, si ce n'est son père, avec lequel il n'avait même pas besoin de prononcer des paroles. Il y a un passage terrible dans l'Évangile où Jésus dit que au jugement dernier, il faudra rendre compte de toutes les paroles oiseuses, c'est-à-dire vaines, que l'on aura prononcées. Je ne peux pas méditer ce passage sans trembler, tellement je pense que, comme tout le monde, j'aurai durant ma vie prononcé un très grand nombre de paroles vaines. Alors il y a un aspect de l'ascèse qui doit nous permettre de devenir intérieurement silencieux, c'est déjà de nous défendre des paroles vaines. Non seulement les paroles calomnieuses ou médisantes, hein, mais les paroles vaines, celles qui finalement n'ont pas lieu d'être, sont inutiles, de trop. Le bavardage dont parle le cardinal Sarah. Effectivement, le bavardage, c'est un moment où la parole en son sens fort est étouffée par les mots, parce que les mots se multiplient, se démultiplient, donnent une logorée où le sens profond finalement se perd.
Mais c'est vrai qu'on peut avoir une forme de légèreté à l'égard de la parole, c'est-à-dire qu'on se dit qu'évidemment en certaines circonstances, probablement beaucoup de gens en fait, à l'occasion d'un décès ou à l'occasion d'une naissance, on dit souvent que les mots nous manquent ou au contraire on est intimidé par plus qu'intimidé, le mot est faible, hein, par la mort d'un proche, mais que on peut avoir des paroles triviales au long des jours sans forcément que ça porte préjudice quelque part à notre vie spirituelle. Alors en fait, à lire le cardinal Sarah, il y a comme une forme de radicalité. On peut avoir l'impression qu'il nous invite tous à être économe de nos paroles, peut-être pas comme un chartreux, mais au moins comme certains religieux, non ? Est-ce que ça a été votre sentiment aussi ?
Pas comme un chartreux, parce que eux, vraiment, ce sont des professionnels du silence qui se sont voués à ça, donc leur vie y est tout entière donnée, et ça impose évidemment une restriction de tous les autres aspects de l'activité humaine. Il n'est pas question pour le commun des mortels de s'arrêter, de travailler, de s'arrêter, d'avoir des échanges humains naturels, normaux, avec des semblables, pour la nécessité ou pour le plaisir. Il y a effectivement aussi un bonheur et une joie du partage par la parole. Mais il y a des pages magnifiques dans le livre Et le cardinal Sarah n'est pas seul à y parler. Je pense notamment au chapitre consacré à son entretien avec Don Dismas, le prieur et le maître général de l'ordre des Chartreux. Il parle du rapport amoureux, de l'amour conjugal, et il fait valoir que le silence est souvent une meilleure expression de l'amour que la parole.
Alors, j'aimerais qu'on finisse là-dessus. Je voulais juste citer un autre passage qui fait écho donc à cette manière d'entrer dans le silence. Il parle entre autres des déserts, et il rappelle donc ce que vous disiez, hein, que Jésus est allé souvent au désert, et que c'est souvent aussi dans le désert que Dieu peut parler à chacun de nous. Le désert est le lieu de la faim, de la soif et du combat spirituel. Il est vital de nous retirer au désert pour combattre la dictature d'un monde rempli d'idoles. Et un peu plus loin, il faut aider ce monde moderne à faire l'expérience du désert. Quand il y a du silence, chaque parole prend du relief, et à l'entendre, c'est peut-être une première manière d'apprendre à goûter la parole avec un grand P. Il dit entre autres la chose suivante, et je voudrais vous faire réagir avant qu'on fasse une première pause, non pas de silence, mais une pause musicale. La parole n'est pas seulement un son, c'est une personne et une présence.
Bien, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de l'étouffement de la parole par les mots. Dans le bavardage, la profondeur de la personne finit par disparaître ou se laisser recouvrir par ses propres paroles, bon, et qui éventuellement envahissent la conscience de l'autre. Et du coup, la parole ne remplit plus sa fonction naturelle, sa vocation initiale, qui est justement de permettre la communication, et la communication alors pas toujours au plus profond. Bien évidemment, nous vivons aussi à la surface de nous-mêmes, hein, et il y a de légitimes joies à vivre à ce niveau-là, mais il y a évidemment un appel qui est en définitive l'appel de l'amour. Il y a un appel à entrer en communication, voire en communion avec l'autre personne, et la vertu qui s'impose alors, c'est tout simplement la discrétion. Le bavardage, c'est la parole devenue indiscrète. Voilà, et quand la parole devient indiscrète, elle fait du bruit, elle cause un bruit troublant, psychiquement et spirituellement troublant. La discrétion, c'est la toute petite vertu qui permet de se retenir à l'égard de ce trouble, et de la communication de ce trouble à celui qui n'en veut pas.
La discrétion, voilà, on pourrait dire à vous entendre en fait que Dieu est peut-être discret, voilà, peut-être cette délicatesse, et ce qui pourrait peut-être expliquer aussi ce qu'on prend trop largement dans ce monde pour son silence. Je rappelle le titre de l'ouvrage, et on vous retrouve évidemment après cette première pause musicale, La force du silence contre la dictature du bruit, aux éditions Fayard, livre d'entretien du cardinal Sarah avec Nicolas Dia.
Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc, avec pour titre « La richesse du silence », pour ne pas faire tout à fait écho au livre qui a motivé cette émission, « La force du silence contre la dictature du bruit », paru aux éditions Fayard, livre d'entretien du cardinal Robert Sarah, avec Nicolas Dia, et nous sommes avec Michel Naudet-Langlois, ancien professeur de philosophie en Cagne, au lycée Fermat, à Toulouse. Alors, après cette introduction et cette invitation du cardinal Sarah à rentrer dans le silence, disant, à un moment il a cette expression, je ne retrouve pas exactement, si l'Église peut affirmer que l'humanité est fille d'un Dieu silencieux, car les hommes sont les fils du silence. Voilà, une invitation très forte en fait à poser un acte de résistance et à faire place au silence dans sa vie. Je voulais qu'on essaye dans cette deuxième partie d'expliquer en quoi, enfin ce que dit, faire écho au propos du cardinal Sarah quand il explique que le silence est le lieu de la présence de Dieu. Entre autres, il a un passage où il parle de la création. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce passage ? C'est vrai que c'est... Moi, j'ai trouvé ça très beau parce qu'on n'y est pas forcément attentif. Que dit-il de la présence de Dieu et de son silence, et de son silence dans la création ? Michel Naudet-Langlois.
Il dit que la création est silencieuse. Et on pourrait voir là un paradoxe. Parce que bien sûr, dans la création telle que nous pouvons la regarder et la penser, il n'y a pas directement de parole au sens humain du terme. Et pourtant, dès la première ligne de la Bible, il est question d'une parole dont saint Jean révèle ensuite qu'il s'agit du Verbe et du Verbe éternel. Alors le Verbe éternel n'est pas une parole humaine. C'est une parole divine, mais il y a là évidemment un rapport d'analogie entre ce que les hommes font lorsqu'ils parlent et se parlent, et puis ce que Dieu fait, si l'on peut dire, lorsqu'il se parle à lui-même, et cette parole de Dieu à lui-même, c'est celui que dans le dogme trinitaire on appelle le Fils, que saint Jean appelle le Verbe. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a la source de tout, il y a la parole qui dit à la source ce qu'elle est, et il y a l'Esprit qui est l'amour qui unit les deux. Donc, à la source de la création, il y a... d'après la Bible, un acte de parole, mais divine. Et puis, les psaumes renchérissent lorsqu'ils disent, je pense au psaume 18, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. » Alors, il n'y a pas là-dedans de voix qu'on puisse entendre, dit le verset suivant, mais... sur toute la terre, on entend leurs accents et leurs mots vont jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire que la création parle. Mais pourvu qu'on veuille bien l'écouter, en l'occurrence l'écouter, c'est la regarder et puis chercher à la comprendre. Donc elle est silencieuse au sens où elle n'est pas bruyante et au sens du bruit qu'éventuellement peut causer la parole humaine, mais elle n'est pas silencieuse au sens où elle ne dirait rien. Au contraire, elle dit, et elle dit Dieu. C'est cela qu'elle dit. Le cardinal cite quelque part un beau début de poème de Patrice de la Tour du Pin. En toute vie, le silence dit Dieu. Alors, nous pouvons l'appliquer à nous-mêmes, et ça rejoint le thème de l'exigence de faire silence pour entrer dans une vraie relation avec le Créateur. Mais toute vie, ça ne désigne pas que les hommes, et même ça pourrait être étendu à l'ensemble des êtres. En toute vie, le silence dit Dieu, propos paradoxal, puisqu'il est question d'un silence, comme on dit, éloquent, ou d'un silence plein de sens, d'un silence qui parle. Et de quoi parle-t-il ? De Dieu. Le Créé parle de son Créateur.
Voilà, ce passage, donc, entre autres, la création elle-même est une parole silencieuse de Dieu, la beauté sans parole de la nature étale sous nos yeux les multiples richesses d'un Père qui ne cesse d'être présent parmi les hommes. Et puis, à propos, donc, pour faire écho à vos propos et comme introduction de cette partie, Dieu c'est le deuxième chapitre intitulé « Dieu ne parle pas, mais sa voix est distincte ». Ça, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était très profond. On a l'habitude de dire, quand on a un petit peu une vie chrétienne, une vie d'église, que Dieu parle dans la brise légère. Alors, il y a un certain nombre de passages qui peuvent peut-être aider à comprendre un peu plus profondément ce que signifie cette parole. Entre autres, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez dit en introduction, à propos des passions et des désirs. Il dit, le cardinal Sarah, à un moment, le silence intérieur est la fin du jugement des passions et des désirs. Il fait, je crois qu'au début de l'entretien, à la fin de l'ouvrage avec Don Dismas de Lassus, donc ce prieur du monastère de la Grande Chartreuse, le prieur dit que la première expérience du chartreux est en fait de découvrir tout le bruit qu'il y a à l'intérieur de lui-même, et que de faire... taire ce bruit intérieur, et parfois, des années, si ce n'est pas des dizaines d'années.
Mais il me semble que tout un chacun fait l'expérience du chartreux dès qu'il se met en silence, et qu'il commence par entendre la petite ritournelle qui l'habite, et à laquelle il a bien du mal à mettre fin, enfin la série des imaginations, pensées qui défilent dans sa conscience, et effectivement, un aspect, peut-être l'aspect majeur de l'ascèse spirituelle que cultivent les moines, c'est d'arriver peu à peu à endiguer ce flot ou à l'apaiser pour en faire une matière de prière au lieu d'en faire simplement, de le laisser être un bruit intérieur dérangeant. Alors la brise légère dont vous parliez, ça renvoie à l'épisode concernant le prophète Élie, vous savez, qui part au désert, dans la montagne, et puis voit successivement un feu, et puis entend un ouragan, et chaque fois Dieu n'est ni dans le feu, ni dans l'ouragan, et ensuite il est dit qu'il entend le murmure d'une brise légère, et à ce moment-là il sort parce qu'il a conscience que Dieu passe. Bon, il y a des traducteurs qui ont dit que l'hébreu pouvait se traduire non pas tant par murmure d'une brise légère que par l'expression « une voix de fin silence ». Expression très belle, très évocatrice aussi. Bon, la figure d'Élie, qui n'a pas été un homme constamment retiré, puisqu'il a été actif ô combien et en lutte avec des contemporains. Élie a vécu la retraite au désert, et l'épisode qui nous en est raconté signifie évidemment que, comme dit le cardinal Sarah, ou comme dit Mère Teresa ici ou là, ça n'est pas dans le bruit et dans l'agitation que Dieu se trouve et se fait connaître, mais dans l'apaisement silencieux.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un petit peu, pas intimidant, mais déroutant? C'est-à-dire que quand on a une vie active, par exemple, comme la vôtre, même si aujourd'hui vous êtes en retraite, on peut trouver des plages de silence. Voilà, 20 minutes, une demi-heure par jour. Mais on est peu, en fait, quand on a une vie active et remplie. Vous me direz, il y a aussi beaucoup de gens, en fait, qui parfois ont plus de solitude qu'ils ne le voudraient, hein, dans leur vie. On est peu confronté à ce travail intérieur d'apprendre à entendre nos passions et nos désirs intérieurs. Est-ce que, je ne sais pas, sans vouloir être trop intimiste, enfin trop indélicat, vous avez trouvé dans votre vie, ou vous trouvez que c'est une difficulté, et comment est-ce qu'on pourrait accompagner les auditeurs sur ce... Que dire aux auditeurs sur ce chemin? Le livre est très radical, mais tout le monde n'a pas toujours les moyens de vivre cette radicalité. C'est un peu le sentiment que ça peut donner parfois.
J'ai eu le bonheur d'avoir une vie en quelque sorte contemplative. Parce qu'à côté de la contemplation au sens proprement spirituel du terme, il y a la contemplation d'ordre intellectuel, et d'ailleurs les moines, y compris les chartreux, s'y livrent, puisqu'ils font des études de philosophie et de théologie. Mais donc, comme professeur de philosophie, j'étais dans la contemplation, si ce n'est toujours dans la prière. Mais par ailleurs, je connais plus d'une personne qui, tout en étant engagé dans la vie active et même en y exerçant des responsabilités parfois écrasantes, s'en sortent parce qu'elles vont chercher dans le silence de la prière le ressourcement. Alors, voilà, quand on est, je ne sais pas, directeur d'entreprise, j'en connais quelques-uns, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais, alors là, je rejoindrai assez volontiers la foi elle-même et cette grande notion de la communion des saints. Il y a des gens qui prient pour nous et qui intercèdent pour nous, les chartreux en particulier, mais ils ne sont pas les seuls religieux à le faire. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est dit dans le livre, nous avons peut-être toujours le moyen de nous associer à cette grande prière des priants professionnels, des petits moments ou des moments aussi longs qu'ils peuvent être, que nous prenons à l'intérieur de notre vie active. Vous disiez 5 minutes, une demi-heure, quand c'est possible, tant mieux. Mais enfin, en tout cas, je connais des gens qui expriment la certitude que la force qui leur permet d'exercer leur travail et leurs responsabilités, cette force, ils la puisent dans l'oraison silencieuse.
Alors, il y a toute une partie de l'ouvrage où le cardinal Sarah parle de la liturgie. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu le cardinal Sarah, c'est un grand amoureux de la liturgie selon le rite Saint Pie V. Voilà, d'une liturgie donc latine, pour faire court, hein, en tout cas c'est comme ça qu'elle est souvent présentée, et donc il a quelques mots, on va dire, acerbes à l'égard de la liturgie contemporaine, qu'il trouve parfois par trop bruyante, etc., sans rentrer tout à fait dans ce débat. À l'intérieur de ça, il dit un certain nombre de choses sur le silence de la liturgie, et probablement, qui n'a pas été confronté au sentiment d'avoir le sentiment pendant la messe ou autre que dans le fond il se passe pas grand chose ou c'est difficile de comprendre en fait la profondeur des mystères qui sont donnés à voir. Entre autres, il parle de la consécration, donc du pain et du vin pendant la messe, la transsubstantation du pain et du vin en corps et sang du Christ, la transformation la plus inouïe et la plus prodigieuse se passe dans le plus grand silence sacré. Est-ce que vous pourriez faire écho peut-être à ce qu'il dit du silence de la liturgie et à son invitation?
Je peux y faire écho parce qu'en effet, je ressens le manque que vous évoquiez. En tout cas, je le ressens parfois et il m'est arrivé de demander à mon curé de ménager des plages de silence au cours de la liturgie dominicale. Alors, les plages de silence, en fait, elles sont prévues dans le missel. Elles ne sont pas toujours respectées, et c'est dommage, à mon sens.
Elles sont prévues quand, par exemple, hormis à la fin de l'homélie?
Il y en a une qui est prévue avant l'invocation pénitentielle, et il y en a une qui est prévue à la fin de l'homélie. Bien évidemment, le cœur de la messe, c'est-à-dire le canon, est récité dans le silence de l'assemblée et devient total au moment de l'élévation du corps et du sang du Christ. Il fut un temps où, et dans les ordres religieux c'est souvent le cas, où le canon est dit tout à fait en silence, c'est-à-dire que on n'entend plus les paroles du célébrant. Bon, je pense que
c'est le cas dans la messe selon le rite Saint Pie V, si je me trompe.
C'était
pas.
Le cas, en
c'était
effet.
Le cas.
Voilà. Mais bon, il y a les plages de silence qui peuvent être ménagées au cours de l'Eucharistie. Il y a le style de la musique, parfois je la trouve effectivement trop bruyante. Bon. Il y a une musique qui tue le silence et il y a une musique qui habite le silence, qui se montre capable de le nourrir, peut-être parce qu'elle en est. Ça a été le cas du Grégorien qui est tout entier né de la prière de l'Église et de la prière de ceux qui consacraient une bonne partie de leur vie justement à prier. Voilà, donc bien évidemment que la qualité de la musique a son importance pour sauvegarder l'espace intérieur du silence qui fait la vraie ferveur. Là, le cardinal Sarah insiste, et j'avoue que je partage son sentiment, la vraie ferveur ne doit pas être confondue avec l'exubérance. Peut-être qu'au contraire, quand on se trouve dans un moment où le silence est vécu comme fervent, alors on est au sommet de la ferveur. Ce qui me désespère le plus, c'est d'arriver à l'église pour la messe du dimanche et d'avoir l'impression d'être dans un hall de gare.
Voilà, donc on comprend que vous ayez aimé ce livre, parce que c'est vrai qu'il est parfois mordant à l'égard de nos liturgies. Voilà, en tout cas c'est son point de vue, et c'est pas rien, c'est quand même l'un des cardinals de la Sainte Église de Dieu, et c'est aussi votre sentiment. Je rappelle le titre de cet ouvrage, « La force du silence contre la dictature du bruit » aux éditions Fayard.
À Belmont-sur-Rance, 93.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, cette émission Vivante Église, donc sur le thème La richesse du silence, pour faire écho donc à un ouvrage, si vous nous prenez en cours de route, La force du silence contre la dictature du bruit, du cardinal Sarah, livre d'entretien avec Nicolas Dia, paru il y a quelques temps de cela, aux éditions Fayard. Et nous sommes avec Michel Naudet-Langlois, professeur de philosophie à la retraite en Cagne, au lycée Fermat, à Toulouse. À la fin de cette émission, j'aurais aimé qu'on parle de ce silence qui est comme une réponse de Dieu. Je m'étais mis ça. Le cardinal Sarah ne fait pas l'économie, fort de cette introduction, je le rappelle, parlant de sa rencontre avec le frère Vincent, donc frère de l'abbaye Notre-Dame de la Grâce, atteint de sclérose en plaques, avec qui il avait, semble-t-il, donc noué une amitié. Alors qu'il n'échangeait quasiment aucun mot. Et donc de cette rencontre serait né ce livre d'entretien. Alors le cardinal Sarah, je ne trouve plus le passage, hélas, que je voulais citer, fait écho à un moment à une parole d'un jeune musulman qu'il a dû donc rencontrer dans son pays, puisque c'est un cardinal d'origine africaine. Enfin, il n'y a pas de lien effet, mais toujours est-il qu'il fait écho donc à cette rencontre d'un enfant qui avait perdu, je crois, son père, et qui lui dit, mais en gros, comment comprendre ce silence de Dieu, lui disant toute sa révolte. Alors c'est une question très profonde à laquelle on revient évidemment sans cesse comme des vagues. Pour ma part, et je vous lancerai comme ça, j'ai trouvé parfois que le cardinal Sarah avait une manière un peu abrupte de répondre à ce silence de Dieu, laissant entendre quelque part que ce silence était profondément élogieux et parlant, et qu'il fallait tout simplement apprendre à l'entendre. Il dit, entre autres, il a cette phrase à un moment, « La maladie est une anticipation du silence de l'éternité ». Voilà. Pour ma part, j'ai eu du mal, je le dis, j'ai même parfois trouvé ça choquant. Qu'est-ce que vous diriez sur la manière qu'il a d'aborder cette question ô combien difficile du déchaînement du mal ?
Je me garderai de parler de la maladie que je n'ai jamais connue, Dieu merci pour l'instant, sous des formes extrêmes et graves. Il n'y a que des malades, et peut-être que le cardinal Sarah se fait l'écho de malades qu'il a pu approcher, qu'il a pu accompagner, je le pense. Bon, je crois pouvoir dire que, en effet, il y a des malades qui parlent de leur maladie de la même façon que ce que dit le cardinal Sarah, et qui est des malades pour qui leur maladie a été l'expérience principale de leur rencontre avec Dieu. Bon, il cite ici ou là Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'a pas vécu longtemps, mais qui dit qu'elle a trouvé le bonheur sur cette terre, mais seulement dans la souffrance, car, ajoute-t-elle, j'ai beaucoup souffert. Alors, ce n'était sans doute pas la souffrance qui était son bonheur, simplement, elle ne pouvait que faire état du fait qu'elle souffrait, et durablement, et que, en dépit de cela, ou à travers cela, elle a vécu sa rencontre personnelle avec Dieu. Donc, oui, il y a quelque chose d'abrupt dans ce que dit le cardinal Sarah, mais j'ai envie de dire que, devant le mal, surtout sous ses formes extrêmes, ses formes les plus dures, toute réponse, toute ébauche de réponse ou tentative de réponse a un caractère abrupt. Et c'est peut-être pour cela que le silence finit par être la vraie réponse. Dans la foi chrétienne, la réponse, c'est le Golgotha, qui n'est pas le dernier mot, qui est l'avant-dernier mot. Le dernier mot, si l'on peut dire, c'est la résurrection.
Donc le Golgotha, c'est le lieu de la crucifixion du Christ.
Voilà. Hein, c'est la passion du Christ, donc l'acceptation par quelqu'un qui s'est révélé comme Dieu lui-même devenu présent, devenu humainement présent, l'acceptation des conséquences de la violence humaine, et en même temps la révélation de l'échec de cette violence. Il y a une anecdote qui a été, enfin, c'est plus qu'une anecdote, c'est un épisode de la vie d'Elie Wiesel, un prisonnier dans les camps de la mort, et qui raconte que un jour, devant le spectacle de prisonniers que l'on maltraitait ou torturait, il entend un voisin lui demander « Mais où est Dieu dans tout ça ?» Et Elie Wiesel lui répond, en montrant ce qu'on était en train de maltraiter, « Il est là !» Alors on pourrait se dire, mais voilà un juif qui tient une parole qui correspond à l'épreuve du Golgotha, l'épreuve de la passion qui a été celle du Christ, mais il n'avait pas besoin de cesser d'être juif pour le dire, puisque justement c'est dans l'Ancien Testament, donc dans ce qui est l'écriture des juifs, que se trouvent tous les fameux discours sur celui qu'on appelle le serviteur souffrant et discours qui ont servi, peut-être dans la bouche de Jésus lui-même, à indiquer le sens de sa passion. Alors, la passion du Christ, c'est en un sens une réponse cruellement silencieuse au mal, parce que ça, c'est revenu de sa part à assumer le mal, à le prendre sur lui pour révéler qu'il n'était pas le dernier mot.
Alors, il y aurait d'autres choses à dire, mais je vois le temps qui passe. Je voudrais juste en dire deux, comme cette réponse en fait au scandale du mal. Il dit un moment, le cardinal Sarah, le silence n'est pas une forme de passivité. En demeurant dans le silence, l'homme peut éviter déjà un plus grand mal. Et un autre endroit, face à l'horreur, il n'y a pas de réponse plus importante que la prière. Mais à la fin de cette émission, je voulais avec vous, et je vous le disais en préparant l'émission, parler de cet horizon que dessine ce livre. Ce livre d'entretien, entre autres, donc après, avec ce prieur du monastère de la Grande Chartreuse. On a l'impression, et récemment dans une autre émission, on en avait parlé, qu'il y a, au-delà de la mer du silence dans laquelle il nous invite à rentrer, un rivage, en fait, qu'il serait donné à chacun un jour de découvrir, mais ça ne se fait pas sans tout quitter d'une certaine manière. Et il parle de ce rivage entre un moment, il fait écho, alors c'est Nicolas Dia, donc au père Jérôme, vous me disiez donc vous me direz qui c'est. Le silence fait penser à une grande vague de l'océan qui, après avoir poussé les skiffs vers une terre inconnue, le laisse sur un rivage toujours redouté où régnerait la seule présence de l'infini. Est-ce que vous pourriez faire écho, ou vous nous dire, vous, comment vous avez entrevu cette grande invitation, en fait, non seulement à passer d'un acte de résistance à faire de la place, mais à rentrer dans une forme de grand abandon, et derrière, il y aurait quelque chose, en fait, au bout du silence.
Le père Jérôme fut moine trappiste à l'abbaye de Ceffonds. Donc, ce dont il fait part, c'est l'expérience de tous les moines. Expérience dont chaque chrétien peut prendre sa petite part en s'engageant dans la voie du silence, donc je dirais dans la voie des moments de silence auxquels il peut consacrer une partie de sa journée. En écho au père Jérôme, je citerai volontiers un passage de Mère Teresa, qui est devenue de Sainte Mère Teresa, qui est devenue une figure tellement importante pour nous. C'est dans la postface du livre. Hein, et Dieu sait si Mère Teresa a été toute sa vie au contact du mal, sous ses formes parfois les pires, ou en tout cas les plus misérables, les plus pauvres. Et elle écrit dans un livre qui s'appelle « La prière fraîcheur d'une source », nous avons soif de trouver Dieu, mais il ne se laisse découvrir ni dans le bruit, ni dans l'agitation. Plus nous recevons dans une prière silencieuse, plus nous pouvons donner dans notre vie active. Le silence nous donne un regard neuf sur toute chose. Nous avons besoin de ce silence afin de toucher les âmes. L'essentiel n'est pas dans ce que nous disons, mais dans ce que Dieu nous dit, et dans ce qu'il transmet par notre intermédiaire. C'est en silence que toujours Jésus nous attend. Bon, on peut au moins se dire que Mère Teresa savait de quoi elle parlait, sur tous les plans, sur les plans de la vie active, toutes les phases de sa vie où elle a été comme Marthe, dans le célèbre passage de l'Évangile, et les phases de sa vie où elle a été comme Marie au pied de Jésus, avec la grande exigence de concilier les deux aspects, de donner toute sa place à une contemplation qui nourrit l'action, sans l'action, c'est-à-dire l'action charitable, sans la faire disparaître. Mais Mère Teresa et de ceux qui disent que Jésus lui-même a parfois suspendu l'action charitable pour se livrer au silence de la prière. Et c'est vrai.
Je citerai juste deux passages et éventuellement vous pourrez y faire écho rapidement du livre du cardinal Sarah. Il dit la chose suivante: le silence est le privilège des hommes courageux. Ils peuvent tomber et perdre l'espoir. Le silence sans cesse pourra les relever parce qu'ils portent une présence et une origine divine. Le silence est une conversion qui ne se fait jamais dans la facilité. Et puis un autre passage. Là, Dieu donne, il parle donc, je crois, des Chartreux, là, Dieu donne à ses athlètes, pour le labeur du combat, la récompense désirée, une paix que le monde ignore, et la joie dans l'Esprit Saint. Ça fait envie, quand même. Hein.
Oui, la dernière citation vient de Saint Bruno lui-même. Hein, c'est une lettre à un autre Chartreux, au moment de la fondation de l'ordre. Le cardinal parle de courage, oui, il faut sans doute une forme de courage pour se mettre en silence, et peut-être que le courage à ce moment-là, c'est tout simplement de se retrouver face à soi-même. Et se retrouver face à soi-même, c'est se retrouver aussi face à la sollicitation qui vient de la part de Dieu. C'est pas toujours agréable de se retrouver face à soi-même.
Eh ben, merci beaucoup Michel Naudet-Langlois d'être venu ce matin pour cette émission sur le silence. J'espère qu'on en refera d'autres à l'invitation entre autres de Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, qui nous a demandé, si vous n'avez pas suivi l'émission à Radio Présence, de réfléchir à la place du silence sur cette antenne. Je rappelle le titre de l'ouvrage à partir duquel on a fait cette émission, La force du silence contre la dictature du bruit, aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.